Bonjour et bienvenue sur le plateau du Revenu TV. Nous recevons aujourd'hui André Choulika, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur général de la société Selectis. Selectis est une société de biotechnologie fondée en 1999 et cotée à la Bourse de Paris depuis 2007. Sa capitalisation boursière est d'environ 100 millions d'euros. Alors, Selectis est une société spécialiste de l'ingénierie génomique, l'ingénierie du génome. Vous êtes en fait présent dans plusieurs métiers, l'agronomie, la pharmacie, les kits pour les outils pour la recherche et développement. Et finalement, il y a une technologie à l'origine de tous ces métiers, ce sont les méganucléases. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de cet outil et qu'est-ce que vous avez apporté en matière d'innovation?
Alors, la méganucléase, en fait, les coupeurs ADN sont quelque chose de très très important pour pouvoir modifier la séquence de l'ADN dans une cellule vivante. L'objectif d'une méganucléase est de rentrer dans une cellule, trouver une séquence unique et bien ciblée, la couper, et à partir du moment où il y a un trou dans le chromosome, pouvoir insérer, remplacer, corriger une séquence pour des applications extrêmement diverses.
Alors, des applications extrêmement diverses, je l'avais dit, trois grandes filiales. On peut peut-être faire un point sur la situation de Selectis dans chacun de ces grands métiers, puis vos objectifs pour 2011, alors, à commencer par l'agronomie. Fin 2009, vous aviez signé un accord avec le géant du secteur, Monsanto. Où en êtes-vous de ce partenariat et qu'attendez-vous pour l'année en cours?
Alors, on attend. Monsanto, effectivement, a été signé en 2009. Le temps de mettre en place cet accord, il y a eu, en fait, toute l'année 2010, des essais qui ont été faits par Monsanto de nos technologies sur leur propre plante de rente. Et actuellement, on arrive à l'atteinte de certains jalons que l'on espère passer cette année. Donc, que j'explique exactement comment ça se passe. D'abord, ils identifient une séquence qu'ils veulent modifier. On fabrique le produit, la méganucléase, qui va cibler cette séquence. Ils l'utilisent pour pouvoir faire un remplacement, une insertion. Et à partir de chacune de ces étapes, il y a des paiements de jalons qui se font. Et jusqu'à l'atteinte de certaines preuves de concept que l'on attend cette année.
Alors, in fine, pour Monsanto, il y aura un produit, ce sera une semence génétiquement modifiée de...
Alors, ça sera une semence qui ne sera pas particulièrement classifiée comme OGM si elle ne fait que rentrer la méganucléase à l'intérieur, parce que la méganucléase n'est pas un fragment d'ADN, en fait, c'est une protéine, et ça peut être un organisme génétiquement modifié, en fait, ou une plante modifiée qui n'est sans adjonction d'ADN étranger.
Cette plante sera, vous avez une idée, du blé, enfin une plante...
Actuellement, nous travaillons sur le maïs, essentiellement, mais il y a des applications dans toutes plantes diverses, qui sont essentiellement, effectivement, des plantes de rang, type soja, etc.
Alors, vous avez également des candidats médicaments en développement, avec quelques projets. Est-ce qu'on peut faire un point aussi sur les deux principaux projets de Selectis?
Alors, Selectis a deux franchises, en fait. Une première franchise, qui est pour des maladies génétiques, un accord que nous avons signé avec l'Association française contre les myopathies. Nous avons obtenu en 2010 des premiers résultats pour la correction du gène codant en fait pour la dystrophine, qui est le responsable de la myopathie de Duchenne. Et on faisait une correction dans des cellules humaines de ce gène-là, qui sont extrêmement probants. Ce programme est en train de se poursuivre. D'un autre côté, nous avons aussi un programme antiviral où la méganucléase va casser un virus. Et en particulier ici, on a un programme sur l'herpès et nous avons publié au début de cette année des résultats qui montrent qu'on peut désinfecter une cornée infectée par l'herpès. Et en fait, c'est une nouvelle approche et de nouvelles entités moléculaires totalement nouvelles dans les approches antivirales.
D'accord. Alors, vous avez signé début 2010 une licence avec l'Université de Kyoto pour l'utilisation de cellules souches induites. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Puisque je crois que c'est une nouvelle division qui est apparue et un nouveau métier pour Selectis.
Alors, nous avons effectivement une nouvelle division qui s'appelle Ecticel, qui existe depuis 2009. Ecticel a en fait comme projet de développer les cellules souches dans des applications diverses, autant industrielles que dans la production en fait de certains substituts humains. On a signé en fait cette licence à l'automne 2010 pour pouvoir intégrer une nouvelle technologie qui permet en fait de totalement s'affranchir des cellules souches embryonnaires. Une cellule souche induite n'est pas embryonnaire, c'est-à-dire qu'elle provient d'un morceau de tissu que l'on reprogramme en faisant rentrer 4 gènes dedans, et cette cellule en fait est rebootée, c'est un reboot total, et elle perd complètement ses caractéristiques de cellule de peau par exemple, et devient une cellule souche.
On n'a pas de problème éthique sur ce type de technologie?
Il n'y a pas de destruction d'embryon.
Quelles pourraient être les applications demain, les produits que vous pourriez commercialiser à partir de cette technologie?
Alors, dans les applications industrielles, en fait, c'est le développement de toute une banque de cellules souches induites à partir de donneurs divers qui vont permettre, par exemple, de faire du criblage de médicaments. Par exemple, si on veut cribler un médicament contre l'arythmie cardiaque, on peut utiliser se produit sur des tas de cellules cardiaques provenant de personnes extrêmement diverses, donc savoir si les personnes ont un souffle-cœur, de l'arythmie, etc., et voir comment on réagit en fonction d'une diversité génétique humaine in vitro. D'un autre côté, nous avons un programme avec les établissements français du sang pour pouvoir fabriquer des globules rouges in vitro. Alors, on sait fabriquer ça dans des petits contenants actuellement. L'objectif de ce programme-là est de pouvoir faire ça à une plus grande échelle, par exemple dans un fermenteur, et à terme de complètement s'affranchir de la collecte de sang pour pouvoir obtenir, en fait, c'est pas un substitut sanguin parce que c'est vraiment des globules rouges humains, mais des globules rouges produits de façon industrielle.
Donc dans le futur, peut-être d'une sorte de sang de synthèse pour la transfusion à l'hôpital.
Un sang fabriqué in vitro. C'est pas de la synthèse, mais c'est de la fabrication in vitro de sang. C'est du vrai globule rouge.
Passons maintenant à quelques aspects financiers. Cellectis est encore en situation de perte opérationnelle, de perte nette. La consommation de trésorerie a atteint 21 millions d'euros en 2010 et votre situation de trésorerie est aujourd'hui d'environ 24 millions d'euros. Alors, comment voyez-vous ce rythme de consommation de trésorerie évoluer en 2011 et aurez-vous, à court ou moyen terme, besoin de faire appel à nouveau au marché pour vous refinancer?
Alors, Cellectis se renforce aussi en termes de chiffre d'affaires et de produits d'exploitation. On a eu 15 millions l'année dernière, ce qui est une chose assez importante. Il faut se rappeler qu'au moment de l'introduction en bourse en 2007, Cellectis comptait 35 collaborateurs, un peu plus d'une trentaine de collaborateurs. On est près de 150 aujourd'hui. On a fait un énorme effort suite à 2009, après la levée de fonds qu'on avait fait en octobre 2009, où on a quasiment doublé la taille de la société. Et il y a eu des tas, en fait, d'investissements non récurrents, dont une acquisition que nous avons fait aux États-Unis, la société Cytopulse, qui se trouve dans la région de Baltimore aux États-Unis, que nous avons acheté. Ce n'est pas, en fait, des dépenses récurrentes. Et notre consommation de trésorerie pour 2010 sera inférieure. Il n'y a pas particulièrement d'appel au marché tant qu'on fait en fait un développement organique de la société avec la progression du chiffre d'affaires actuel. Toutefois, si on doit faire une acquisition plus importante qui requiert effectivement un cash important, à ce moment-là, nous ferons effectivement appel au marché si cette acquisition se réalisait.
Alors, si on ne tient pas compte de cette stratégie de croissance externe, quand espérez-vous que Cellectis sera une société rentable ?
Nous avons en fait, au moment de notre introduction en bourse, visé 2012-2013 pour une atteinte de l'équilibre. Nous visons toujours cet objectif-là. Et à partir de 2012-2013, on commencera à rentrer en rentabilité. Chacune de ces filiales que nous avons progresse en chiffre d'affaires et finiront par rendre le groupe rentable.
Alors, les projets dans le domaine thérapeutique sont quand même relativement lointains. Je pense que c'est également le cas dans les cellules souches. Quels sont les premiers contributeurs de bénéfices pour la société à cet horizon ?
Actuellement, les premiers contributeurs de bénéfices sont essentiellement en fait la filiale Cellectis BioResearch qui vend des kits de recherche et des outils de production pour l'industrie pharmaceutique et les sociétés qui font de la recherche en général, qui est en fait une entité qui doit devenir rentable à très très court terme. La filiale Cellectis Plant Science qui se trouve à Saint-Paul dans le Minnesota est déjà rentable. Nous avons cette filiale pour les cellules souches, toute la partie industrielle en fait de criblage doit atteindre un point de rentabilité à court terme. Et finalement, comme vous avez cité, toutes les applications thérapeutiques restent effectivement de long terme et continueront à consommer du cash.
André Choulika, merci.
C'était moi, vous remercier.